Radio Okapi, regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour et bienvenue dans ce numéro du regard sur l'actualité de la semaine en RDC que j'ai l'immense plaisir de les présenter avec un confrère journaliste et un analyste politique ici au studio. Au cours de ce magazine, nous analysons les grands faits qui ont dominé l'actualité pendant la semaine. Et pour ce matin, trois sujets sont au menu de notre débat, à savoir la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de Washington, les remaniements du gouvernement qui a eu lieu hier et les débuts de la publication des résultats de la grande session de l'examen d'État, édition 2025. Pour en parler, nous recevons dans ce studio professeur Dadi Salé. Il est spécialiste en développement et analyste politique. Bonjour et bienvenue dans ces rendez-vous du regard sur l'actualité de la semaine en RDC.
Bonjour et bonjour à tout le monde.
Deuxième invité, Pascal Kambala. Il est journaliste de la rédaction des Bureaux de Télévision. Bonjour et bienvenue, chers collègues, dans ces rendez-vous du regard sur l'actualité de la semaine.
Bonjour Tati, bonjour à tous les auditeurs, auditrices de la radio Bio, la radio de la paix, au Nord Kivu, Sud Kivu, à Beni, à Nitou.
Tati Mapoukou est à la présentation de ces numéros. Kéline Kouté coordonne cette émission sous la supervision de Thérèse Kankou et Patrick Kiasongwa, pour sa part, s'occupe de la prise des sons. Toute l'équipe vous souhaite une excellente condition d'écoute de ces rendez-vous du regard sur l'actualité de la semaine en RDC.
Vous nous écoutez déjà en FM et sur toutes les plateformes digitales. Rejoignez-nous dès à présent sur le bouquet Canal+, au canal 572 pour Radio Okapi et au canal 573 pour Radio Okapi Enfant. Radio Okapi, encore plus près de vous pour mieux vous servir.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi, la fréquence de la paix à Goma, au Nord Kivu. Vous nous suivez sur la fréquence modulée 95.5 et si vous êtes à l'étranger, merci de nous rejoindre sur www.radiokapi.net. Bienvenue à tous dans votre magazine hebdomadaire Regard sur l'actualité de la semaine. Comme à l'accoutumée, vous avez chacun de vous deux ou trois minutes pour commenter un fait d'actualité qui a captivé votre attention dans votre milieu immédiat durant cette semaine finissante. Et nous allons commencer par vous, professeur Dadi Salé. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en développement et analyste politique. On vous donne la parole.
Oui, merci beaucoup. Et je pense qu'un des rapports qui nous a plus intéressés, c'est qu'on dit déjà naturellement nos condoléances à toute la population congolaise, surtout à Beni, par rapport aux événements concernant la pluie. Mais ce qui nous intéresse plus un peu, c'est les rapports du Haut Commissariat des Droits de l'Homme, qui parle de plus de 319 morts, civils, tués, juste à Rutshuru, on précise, et dans quatre villages. Et c'est là dans plus ou moins 10 jours. Alors, nous sommes dans le mois des génocostes. On aimerait effectivement attirer l'attention de tout le monde pour qu'on puisse comprendre vraiment ce qui se passe. Si nous extrapolons, nous avons dans 4 villages plus de 319 civils tués. En grande partie, les génocostes, on a plus ou moins 15 millions depuis quelques années. Mmh. Et exactement, si vous prenez seulement 100 villages, on peut comprendre qu'effectivement, nous avons plus de 31 000 morts. Mmh. Or, les rapports des Nations Unies sont des rapports, effectivement, qu'ils font un peu avec trop de sérieux, ce qui fait qu'ils ne prennent pas tout toutes les personnes qui ont été tuées, etc. Mais nous, nous pensons que c'est plus de 10 fois plus que ça. Non, massacre et génocide, il y a. Exactement, les hauts commissaires.
Parce qu'il y a, il y a des cas qui ne sont pas documentés.
Qui ne sont pas documentés et qui sont difficiles à documenter. Mm. Donc, il y a plus, par exemple, par mois, on peut avoir plus de 150 000 Congolais tués. Voilà ce que nous nous donnons comme rapport. Mais bien sûr, documenter, etc., ça devient un sérieux problème. C'est la raison pour laquelle il faut des moyens, vous avez compris. Mm. Nous, avec nos associations, on n'a pas assez de moyens, ça va, pour faire un travail trop documenté. Ce qui fait que c'est avec, effectivement, Fonarev, avec, effectivement, Génocoste, qu'on devait le faire. Et avec les Nations Unies. Parce qu'on nous demande des preuves. On dit, mais écoutez, c'est pas un petit travail avoir vraiment des preuves fournies. On sait que pour que les hauts commissaires puissent sortir ces chiffres-là, ben les Nations Unies ont dépensé des milliers de dollars pour le faire, pour que ça soit accurate, que ça soit vraiment bien élaboré. Donc ici, ce qui m'intéresse un peu, c'est est-ce que l'élite congolaise, est-ce que le peuple congolais comprend que ce sont des Congolais qui viennent d'être tués? qui sont en train d'être tués. Je pense que mon réel problème, c'est qu'on ne sent pas la mesure au niveau même du sommet de l'État et de l'élite congolaise. Nous sommes en train d'être tués, mais nous ne prenons pas de grandes mesures.
Et le gouvernement congolais devrait avoir ces données fiables.
Oui, mais non, avoir ces données-là ne suffit pas. C'est un peu, il y a des slogans, mais on ne le fait pas. On a dit plus jamais ça. Oui, plus jamais ça, mais ça vient encore de se faire. Plus jamais ça, mais ça vient encore de se faire. Parce que nous sommes un peu trop dans des rhétoriques plutôt qu'être dans des actions. C'est la raison pour laquelle j'encourage les Ouzalendo. Le Ouzalendo, comme je suis en train de le dire, qui défend... Je m'excuse, il faut positiver les choses. C'est par rapport à la rade et c'est officiel. Il ne s'agit pas d'encourager la rébellion, s'il vous plaît. Parce que je suis dans une chaîne des Nations Unies. Parce que nous sommes dans une situation officielle, n'est-ce pas, avec la rade réserve armée de la défense et une démarche importante pour le peuple congolais. Les Ouzalendo ne doivent pas être pris comme un point négatif. C'est un point positif pour la République démocratique du Congo parce que ce sont les Ouzalendo qui empêchent matin, midi, soir ces tueries dont les Nations Unies sont en train de parler. Vous pensez qu'il n'y a pas de responsables? Heureusement, ils ont cité les responsables, les M23. C'est-à-dire les Rwandais, c'est pas moi, c'est les hauts commissaires parce que nous le disons matin, midi, soir. Alors comment vous ne comprenez pas qu'on doit mettre en exergue les gens qui sont en train d'empêcher? Ce qui fait que le haut commissaire, ça va, n'a fait que citer. Qu'est-ce que lui a fait pour empêcher que ça ne puisse se passer? Ça ne puisse pas se passer. Mais les Ouzalendo, tout le monde, même au niveau international, devait féliciter les Ouzalendo. S'il vous plaît, il faut que les Nations Unies puissent comprendre l'importance, ça va, de la réorganisation de Ouzalendo, ça va, et effectivement faire en sorte que ça ne soit pas un danger. Non, ce n'est pas un sujet tabou, s'il vous plaît. Je suis en train de le préciser en connaissance des causes. Donc, j'estime effectivement que, pour l'instant, le gouvernement congolais devait se transformer en Ouzalendo. C'est-à-dire, effectivement, aux patriotes qui ne vont pas constater les morts. Parce que les Nations Unies constatent les morts. Les gouvernements congolais constatent les morts. Au niveau international, on constate les morts. Mais il y a des gens qui se battent pour qu'il n'y ait pas ces morts-là. Alors, vous voulez féliciter quoi? Vous voulez féliciter les gens qui constatent les morts ou bien les gens qui se battent pour qu'il n'y ait pas ces morts-là? Ah mais come on, on doit être un peu plus sérieux et savoir que et ce n'est pas négatif, s'il vous plaît. C'est dans le positif qu'on arrive effectivement à comprendre qu'on doit se prendre au sérieux.
Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en développement et analyste politique. Je me tourne vers vous, Pascal Kambala. Nous soulignons que vous êtes journaliste de la rédaction de Biwan Télévision. Dites-nous en quelques mots, quelle est l'actualité qui a le plus captivé votre attention le long de cette semaine qui est en train de finir?
Il y a deux informations. Il y a l'actualité, il y a le rapport du Haut Commissariat aux droits de l'homme et l'affaire procureur général contre Constant Mutamba. Je commence avec le rapport du Haut Commissariat aux Nations Unies aux droits de l'homme. Je me suis posé la question, il faut combien de morts dans la partie est du pays pour enfin qu'il y ait un tribunal pénal international? Il faut combien de morts? En 2014, février 2005, au Liban, l'ancien premier ministre libanais, Rafik Hariri, a été tué à la suite d'une charge explosive placée par le mouvement terroriste Hezbollah. Il est mort avec une vingtaine de personnes. Et à la suite de cet assassinat, il y a eu un tribunal spécial pour les Libans. 21 personnes, il y a eu un tribunal spécial pour les Libans. Mais en RDC,
on documente des milliers de cas de morts.
Des viols, des tueries, des plus de 10 millions de morts
pendant trois décennies. Et ça ne s'arrête pas, c'est pas encore arrêté.
Il n'y a même pas un tribunal qui commence même à siéger. Il n'y a pas de tribunal pénal international. C'est un appel à la mobilisation générale. Des Congolais doivent se mettre partout où nous sommes. Nos frères et sœurs qui sont au nord Kivu, sud Kivu. La paix va revenir dans la partie est qu'avec la justice. Sans justice, on ne pourra jamais parler de la paix. Sans justice, on ne pourra jamais parler de la paix. Nous ne pouvons pas accepter qu'on puisse tuer nos frères gratuitement. Gratuitement. Qu'est-ce que les populations ont fait pour mériter cette situation? Aujourd'hui, le Haut Commissariat a cité les responsables. C'est le M23 qui a tué ce gens-là. 300 personnes tuées, massacrées. Et le Haut Commissariat cité, c'est le M23. Mais le Haut Commissariat, il est dans les systèmes des Nations Unies. Pourquoi il n'arrive pas activer cette justice pénale internationale. Trop de rapports, il y a trop de rapports sur le Congo. On parle de Human Rights, publie des rapports. Au commissaire publie des rapports.
Oui, mais les ONG locales publient des rapports. Les plaidoyers doivent également émaner de nous, les gouvernements.
Oui, mais c'est pourquoi les décideurs congolais. J'ai dit à la population. J'ai dit la population, nous, population congolaise, nous devons nous mettre debout pour exiger enfin ce tribunal pénal international. Vous savez, c'est les tueries dans la partie est du pays, ça me rappelle ce qui s'est passé au Sierra Leone, avec les phénomènes des enfants soldats, au Liberia, Charles Taylor, Prince Samson, tout ce monde-là. Ces démons qu'on a amenés dans la partie est du pays, seul le peuple congolais, nous sommes capables à mettre fin, peu importe le gouvernement. Mais j'ai dit, nous, Congolais, vous savez, on parle de génocide, mais on tue les Congolais par rapport à leurs minerais, on tue les Congolais par rapport à leurs terres. Mais on ne va jamais effacer l'histoire de ce pays.
Non.
Hier, c'était Komanda. Hier encore, c'était à Routour. Mais le professeur Dadis a levé de dire. Il a dit, quand on parle de Kishishé, le chef de l'État l'a dit le jour du génocide, c'est comme si on pensait, ce sont des territoires, des entités, mais c'est devenu des histoires où ça rappelle le mal, où on a tué des gens. Makobo, là, c'est le mal qu'on pense, qu'on a tué des gens.
Des nouvelles macabres.
Des nouvelles macabres. Mais qu'est-ce que nos frères de l'Est ont fait
pour mériter
cette situation? Ils ont fait quoi? Ils ont fait quoi? Où sommes-nous les Congolais? Où sommes-nous pour arrêter? On ne peut pas continuer. Mais le professeur Dadis Salé a dit, plus jamais ça. Mais ça continue. On tue les gens. Ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne peut pas continuer à faire couler les sang injustement des populations. Des populations. Et on va aborder. Comment voulez-vous que les communautés arrivent à s'entendre quand il y a toujours les tueries? Comment voulez-vous? C'est comme si on veut créer une situation où les gens ne vont plus s'attendre. Non, nous avons besoin de la paix. Et la paix des braves, il faudra que les responsables soient un jour devant un tribunal pénal international. Comme Pol Pot, le Khmer Rouge l'a été.
Merci beaucoup, cher collègue Pascal Kambala. Nous vous rappelons que vous êtes journaliste de la rédaction de Biwan Télévision. Donc, merci à vous deux d'avoir décortiqué pour nos auditeurs l'actualité ayant retenu votre attention durant cette semaine qui est en train de finir. Alors, le premier thème de cette journée concerne la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda. Le 1er août dernier, des représentants de la RDC et du Rwanda avec l'aide des États-Unis ont paraphé les texte des principes du cadre d'intégration économique et régionale, une exigence énoncée, qui est une exigence énoncée dans l'accord de paix, grâce à une coordination commune dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures sociaux de base, l'exploitation minière, la gestion des parcs nationaux, le tourisme et la santé publique, la RDC. Et les Rwanda vont stimuler les progrès économiques et amélioreront les conditions de vie de la population ainsi que des communautés dans la région des Grands Lacs, selon les communiqués publiés au terme de ces rendez-vous qui a eu lieu cette semaine à Washington. Comment commentez-vous cette nouvelle? Nous commençons par vous, professeur Dadis Salé. Nous soulignons que vous êtes spécialiste en développement et analyste politique.
Alors, je peux commenter cette nouvelle sur plusieurs volets. Nous avons le volet entre guillemets de fonds structurels. Je pense que l'accord de Washington, c'est une régression économique par rapport à une planification qui devait être de la République démocratique du Congo. Nous avons une planification qui tient sa source dans notre philosophie Kujitegemea, Tomilu Kelatuso Sangue Mositouji Kebela, où il faut rompre totalement avec l'esclavagisme économique que nous avons, c'est-à-dire effectivement totalement extraverti. Où vous avez vu même l'exploitation minière, même pour la construction des chemins de fer, c'était tourné vers l'extérieur. Mmh. Nous devions exporter, ça va, nos minerais et tout le reste. C'est ça l'économie de la République.
Mais c'est aussi rationnel de développer l'économie dans la région des Grands Lacs parce que nous avons plusieurs voisins dans cette contrée et il a été démontré au lendemain de l'indépendance avec la CPGL qui est l'ancêtre de la CIRGL oui. Que l'économie était florissante dans la région parce qu'il y avait une plaque tournante de l'économie.
Il n'y a aucun problème. Alors, pour quelle raison on ne se réfère pas à la CPGL, Communauté économique des pays des Grands Lacs, qui a effectivement le Burundi et le Rwanda eh ben, ça peut continuer sous la CPGL. Et la CRGL, effectivement, avec plus de pays, plus de 11 pays pratiquement, pour la sécurité, pour la paix, etc. Ça, ce n'est pas dans les cadres de la CPGL. C'est dans les cadres, effectivement, malheureusement, de Washington. Ça n'a plus rien à voir et pourtant, il y a déjà un cadre qui fonctionne. On a la CPGL et des banques à Goma, pour ceux qui ne le savent pas. Parce que je sais que cette banque n'existe pas ici à Kinshasa, mais ça existe à Goma. Nous avons effectivement la coopération du côté de Bukavu, du côté énergie, avec des barrages. Donc, vous me parlez de quelque chose qui existe déjà. Ah non, 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 non. Ici, effectivement, une coopération...
Et dans ce contexte-là, on redéfinit les termes des références sur le développement socio-économique uniquement avec les Rwandais.
Malheureusement, vous avez compris. Parce que ici, apparemment, il s'agit d'une co-gestion. Il s'agit effectivement de ce qui s'est passé quand le président de la République est entré. Il a bien compris. Il a signé d'autres accords, ça va, en facilitant le Rwanda de pénétrer l'économie congolaise avec, par exemple, ses avions... avec l'or, où le Congo devait traiter l'or, son or, au Rwanda. Et pourtant, nous-mêmes, à Bukavu, nous étions en train de faire notre usine qui vient d'être démantelée.
Une industrie de transformation,
une industrie de transformation. Donc, tout le monde sait très bien que pour un développement durable, ça va, il faut que la République démocratique du Congo puisse produire. Or, produire, le vrai sens du mot produire, ça va, ça s'appelle la transformation de matières premières, ça va, vers un produit fini. En République démocratique du Congo. C'est-à-dire, effectivement, toute la chaîne doit se passer en République démocratique du Congo et devrait en grande partie, avec un peu un système un système du néo-mercantilisme, ça va, ou effectivement un système industriel complet. Les systèmes industriels complets en développement nous renvoient à comprendre effectivement que nous devons produire de nous-mêmes. Avec nos propres moyens, ce ne sont pas les entreprises américaines et chinoises comme c'est le cas aujourd'hui, parce que déjà du côté minier, eh ben les Chinois ont plus de 60%. Et là, les Américains sont en train de vouloir récupérer. Au fond, la République démocratique du Congo, le matière première et même le potentiel dont nous parlons ne nous appartient pratiquement plus. Je ne sais pas si les gens le savent. Donc, s'il vous plaît. Ce que vous êtes en train de dire là, c'est très sérieux.
Oui, mais le paragraphe ne fait pas allusion uniquement aux minéraux, professeur. Le paragraphe fait allusion aux ouvrages sociaux de base, à la santé publique.
Pas de problème. Et moi, ça, ce n'est qu'un exemple que j'ai donné.
Dans le cadre du commerce, c'est frontalier.
Quand vous parlez, par exemple, du commerce, ça ne fait pas allusion. Il n'y a pas de problème. Le commerce, c'est donnant-donnant. Ça dit effectivement que nous aurons produit... pour exporter. C'est ça le commerce. Le commerce, ce n'est pas recevoir seulement.
Encaisser.
Ce qui fait que notre balance commerciale est pratiquement nulle. Nous ne faisons qu'encaisser. Donc, les systèmes qui semblent être proposés là, c'est la continuité de l'esclavagisme économique. Excusez-moi, je suis direct. Mais que nous pouvons arriver à transformer si les chefs de l'État nous écoutaient. Mais ce qui est proposé dans la réalité, ça va. Ok, quelqu'un dit on ne brade pas le minerai. Non. Il faut pas parler aux gens comme si on parlait aux enfants. Ça va. Déjà, nos minerais sont bradés. Par tous les contrats, j'ai dit avec chiffres officiels, ça va, tous les contrats à plus de 90% en République démocratique du Congo minier, les grands contrats sont léonins. Et ce n'est pas les grands qui connaissent l'aspect minier, notamment celui qui était à la FEC, etc., et président de la GECAMINE pendant les années 90-91, mais tout le monde le sait. Donc, quand vous avez des contrats miniers, et beaucoup de contrats qui sont léonins, c'est-à-dire que ça ne bénéficie pas au peuple congolais. Nous devons déjà, j'informe à tout le monde, pour celui qui pense que les minéraux congolais nous appartiennent encore. À plus de 80%, les minéraux congolais n'appartiennent plus aux Congolais. Pendant plus de 20, 30, 50 ans.
Oui, mais voilà pourquoi il faut redéfinir les cadres.
Ben exactement. En redéfinissant, nous ne devons pas maintenant les donner aux Américains. Vous comprenez? En redéfinissant, nous devons faire ce que je demande, une révolution économique. S'il vous plaît, soit nous sommes invités ici pour blaguer et applaudir les djalolistes, soit nous sommes invités pour donner certaines valeurs.
La bonne
je sais que ce n'est pas facile. Oui. Vous m'avez présenté. Je suis spécialiste dans mon domaine. On ne peut pas avoir un développement durable en mettant les Chinois et les Américains en compétition en République démocratique du Congo, en mettant les Rwandais, ça va, dans le jeu, et les Congolais sont où? Dans tout ça.
Oui, mais le Rwanda est notre voisin éternel.
Il reste notre voisin, il n'y a pas de problème.
Comme c'est le cas pour d'autres pays, la région, l'Ouganda et le Burundi.
On n'est pas obligé de manger avec son voisin. Malheureusement, c'est la politique de Sarkozy, c'est ce qui continue. La politique de Sarkozy où on veut obliger aux Congolais de continuer. Parce que ne vous en faites pas, ça fait plus de 20 ans. Là, j'ai parlé de la balkanisation indirecte, cette politique a été là. nous avons mangé obligatoirement avec les voisins. C'est-à-dire, écoutez, je parle de faits, pas de spéculation, parce que les gens ont peur de parler de faits. Le fait, c'est qu'effectivement, pendant plus de 20 ans, ça va, l'Ouganda contrôlait totalement tout ce qui est bois, en Ituri, etc. Ils s'étaient déjà donné les quotas. Voir les discours du président Laurent Désiré Kabila, voir les discours, effectivement, du président Félix Tshisekedi. Et le Rwanda s'appropriait tout ce qu'il pouvait s'approprier. S'appropriait même les hommes politiques, les ressources humaines. On avait même des gens à la tête du pays d'une façon ou d'une autre, ça va, au gouvernement, qui venaient de ces systèmes. Donc, s'il vous plaît, je pense effectivement que le peuple congolais devait être un peu plus sérieux. Ces systèmes qui est proposé, nous pouvons les prendre d'une façon temporaire dans une position de faiblesse. Mmh. Mais l'essentiel, c'est de nous reconstituer une force de dissuasion pour que ça puisse finir. Donc, je comprends un peu le chef de l'État, mais on ne doit pas rester dans une position de faiblesse. Mmh. Ça va. On doit se créer un rapport de force comme les Chinois qui ont vécu pendant un long moment avec les Japonais, avec les Britanniques, dans une sorte de colonisation, mais avec Mao Tse-Tung, ils sont arrivés à s'en sortir. Mais c'est un peu nous, nous, notre intelligence, c'est un peu rester dans la domination. C'est là où je ne suis pas d'accord. Il faut changer, il faut une révolution.
Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en développement et analyste politique. Je me tourne vers vous, cher collègue Pascal Kambala. Comment commentez-vous cette actualité concernant le développement d'un circuit de commerce transfrontalier entre les Rwanda et la RDC, ainsi que des projets de développement socio-économique qui a fait l'objet d'une réunion cette semaine à Washington? États-Unis.
Vous savez, j'aime danser, mais le tango, c'est on danse à deux, mais on ne danse pas avec n'importe qui, même quand vous allez à une fête, même chez vous, à la maison, même si les invités arrivent, viennent, vous ne dansez pas avec n'importe qui.
Et puis on n'invite pas tout le monde.
Tout le monde. Mm. Ici, ça s'apparente à un mariage économique imposé. C'est un mariage économique imposé par Donald Trump. Pour les intérêts des Américains. Moi, je ne comprends pas.
Qu'est-ce qui vous fait dire cela, cher collègue?
Il faut comprendre les enjeux. Donald Trump chasse les immigrés. Les Rwanda a signé un accord là-dessus. Ils vont tirer des intérêts. Donald Trump sait qu'au Congo, il y a les minéraux. Il faut que les deux pays qui guerroient, arrivent à la paix. Et bon, pour cette paix-là, il faut négocier économiquement, il faut gérer ensemble. Non. On doit faire très attention. Il y a un élément.
Et les ressources sont les nôtres. Comment est-ce qu'on va nous imposer une cogestion?
Oui, il y a un élément qu'il faut comprendre. Notre voisin a commis ce qu'on appelle les crimes graves, c'est-à-dire que l'agression. Commençons à résoudre ce problème-là, au-delà des accords de Washington DC. Il y a des morts. Donald Trump lui-même a dit, les Rwandais sont entrés au Congo avec des machettes, ils ont tué des gens. Il le sait. Nous avons encore des plaies. Récemment encore avec ce rapport de au commissariat des droits de l'homme. Vous ne pouvez pas amener des protagonistes vers les désaccords économiques, alors que l'élément principal est encore là, pendant.
Mais nous sommes appelés à cohabiter, chers collègues, parce que...
Je ne refuse pas.
On va rester les voisins éternels, je le répète.
Je vais vous dire une chose. Entre les populations, la RDC, le Rwanda, il n'y a pas de problème.
Il n'y a pas de souci, ça c'est vrai. Ça c'est vrai.
Nous autres ici, nous avons étudié, d'ailleurs je cherche même cet ami-là rwandais.
Ici à Kinshasa, on avait beaucoup d'amis rwandais.
Je le cherche, je ne sais pas s'il va m'écouter. Oui. C'est Rugendo. Oui.
Il même fait... à Goma, quand vous arrivez nous à Goma, avons, ils sont là avons, dans les commerces, ils sont
avons,
là.
Voilà. Nous avons des amis
dans
rwandais.
Dans la vente des produits pétroliers,
nous,
ils sont.
Oui, nous avons des amis rwandais.
Bien intégrés.
Bien intégrés. Avec qui nous parlons très bien, sans problème. On a étudié avec. Mais c'est la politique de l'actuel régime de Rwanda qui pose problème. Pourquoi ne pas, dès le début, chercher à coopérer avec la RDC? Pourquoi ne pas lever des coopérations si les questions soulevées par le Rwanda aujourd'hui à travers le M23 n'ont pas été abordées pacifiquement? Est-ce qu'allions-nous arriver à cette guerre où il y a des morts de part et d'autre?
Non.
Quand on vous apprend qu'il y a des militaires rwandais qui sont morts au champ de bataille, il n'y a pas de deuil au Rwanda, ça fait honneur aux Rwandais?
Pas du tout.
Ça fait pas honneur aux Rwandais? Quand il y a des morts ici de notre côté au Congo, ça fait honneur aux Congolais? Non, mais maintenant c'est la paix. Mais bien avant, comme on dit en Lingala, Bouzo Balibosso, Mayele si. Maïl Simon.
Oui, les paragraphes qui a fait l'objet de la réunion cette semaine entre les deux parties, chers collègues, concernent l'intégration économique régionale, une exigence énoncée dans l'accord de paix. Et grâce à cette coordination-là, donc, il y aura le développement des infrastructures socio de base, l'exploitation minière, la gestion des parcs nationaux, le tourisme. Ça permettra de booster l'économie locale et régionale au profit de tout le monde.
Vous savez, n'allez pas loin. Ce que le Rwanda cherche à bénéficier des ressources naturelles de la RDC. Ce qui est clair, connu. Mais il faut venir par la petite porte. Venez par la grande porte. Il ne faut, pas passer par les Américains pour chercher à bénéficier de nos ressources naturelles. Je vous ai dit, l'élément capital, c'est les morts créées ou provoquées par le Rwanda ici en RDC. C'est la question principale qu'il faut résoudre. La coopération. Nous sommes des pays voisins. Nous sommes condamnés à coopérer. Mais il faut qu'on puisse coopérer de manière loyale. Pas avec un voisin qui joue pas un bon jeu vis-à-vis de la RDC. Aujourd'hui, pourquoi Donald Trump est construit des frontières entre États-Unis et Mexique? Parce qu'il ne veut pas qu'il y ait des immigrants.
Oui, mais nous ne sommes pas.
Nous aussi, nous pouvons aller là-bas.
Nous ne sommes pas dans le contexte du continent américain. Ici, nous sommes en Afrique.
Mais attendez, je ne veux pas aller dans ce qu'on appelle ASEAN de l'autre côté. Mais s'il faut aller vers des coopérations économiques, l'intégration. Mais cette intégration doit se faire entre nous, acceptée par les Congolais. J'ai dit, il ne faut pas qu'on nous amène. Vous savez, dans tout ce qui se passe, mais on ne le dit pas. Moi, je sais que les États-Unis s'imposent à la RDC au Rwanda. S'imposent. Donald Trump, Paul Kagame a refusé d'aller en Angola. Mais pourquoi il va aller aux États-Unis?
C'est
parce que devant Donald Trump, le puissant Donald Trump, il ne peut pas oser. Sinon le régime va changer. Et nous aussi, nous ne pouvons pas refuser. Et ce sont les Américains qui nous imposent. Donc, nous sommes condamnés à vivre ensemble. Mais cet amour-là, cette coopération à venir, doit se faire par la volonté aussi manifeste des Congolais. Vous voyez, donc on ne peut pas. Aujourd'hui, j'ai appris, Tanzanie, Burundi, RDC, il y aura un train qui va passer par ces trois pays ici. Est-ce qu'il y a un problème entre les trois pays?
Non.
Pourquoi ça ne passe pas par le Rwanda? Posez-nous la question, pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ça ne va pas passer par le Rwanda? C'est ça le vrai problème. Nous avons nos barrages de Ruzizi qui desservent l'électricité, RDC, Burundi, Rwanda. Le vrai problème aussi, c'est quoi? Il faut que le régime rwandais soit vrai. Il ne faut pas qu'on ait un régime des malins. Des gens qui cherchent le sang.
Oui, mais
qui vivent par le sang,
mais
non.
On ne nous a pas aussi interdit d'être malins.
Non.
Parce que dans les négociations...
Le vrai problème de nous, Congolais, c'est de ne pas jouer ce jeu-là. Nous sommes vrais. Les Congolais sont vrais au niveau de la coopération. Les Congolais sont vrais par rapport aux relations. Les Congolais sont vrais dans leur façon de vivre. Quand on vous dit que les Congolais sont hospitaliers, ça veut dire quoi? Où vous les trouvez? Ça veut dire quoi? Nous sommes très hospitaliers par rapport à ce que nous faisons. Nous ne sommes pas contre cette coopération. Mais j'ai dit, il faut qu'on arrive tout d'abord à résoudre cette question-là principale. Aujourd'hui, hier, l'Allemagne et la France, grands ennemis. Mais aujourd'hui, il y a une grande attente entre l'Allemagne. Mais il y a une coopération entre l'Allemagne et la France.
Mais
la question principale a été résolue. La question principale aujourd'hui, ce sont les morts provoquées par le Rwanda dans la partie est du pays où j'ai parlé dans le thème de cette émission par rapport à la justice pénale. Donc, nous pouvons aller vers cette coopération. Mais d'ailleurs, quand le président Félix a pris le pouvoir, Rwanda a commencé à voler ici, non? Le président de la République a dit quoi? J'ai sillonné les 9 pays pour qu'il y ait une coopération. Pourquoi les Rwandais ont refusé? Il ne faut pas que quelqu'un cherche à supplanter, à dominer le Congo. Non. On ne peut pas dominer un grand pays comme ça. Non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est grand temps que les Congolais comprennent. Si nous bénéficions de cet apport des Américains pour qu'on ait la paix, pour nous les Congolais, nous devons affirmer notre souveraineté aujourd'hui. Nous devons affirmer notre indépendance économique. Nous devons affirmer notre indépendance sociale. Nous devons affirmer notre indépendance, notre souveraineté vis-à-vis des pays voisins. J'ai dit aujourd'hui la route des Kalambambouji. Au niveau du Kanangangola.
Qui va sortir en Angola.
La route du Congo central qui va vers l'Angola. Et c'est quelle route encore? Le Lufu. Est-ce que de temps en autre, Il y a des questions de guerre entre nous et l'Angola?
Non.
Non. Pourquoi dès le début, les Rwandais n'ont pas cherché à coopérer? Pourquoi? Ils ont cherché à imposer les choses par les armes. Non. Vous savez, qui tue par l'épée,
paiera par l'épée, dit-on.
Et c'est ce que beaucoup de gens vont subir dans la partie du pays. Il ne faut pas comprendre. C'est cela le vrai problème. Nous sommes sur la terre des hommes. Je l'ai toujours dit. Ceux qui ont tué, ils seront aussi rattrapés par l'histoire. Et les membres des familles. Mais pour moi, la coopération, il n'y a pas de coopération sans la paix au début. Il faut qu'il y ait la paix. La réponse à cette question, la paix, et puis on va vers la coopération.
Merci à vous deux d'avoir analysé ces sujets, ces rapportant à la poursuite de la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington, signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier. Et cette semaine, les deux parties se sont convenues sur les projets de développement socio-économique entre les pays de la région. Nous allons souffler un peu avec la musique en écoutant la chanson intitulée « Sauf qui peut » de la artiste et musicien Koffi Olomide.
Elle est bien, Tabou Fato, Annie Dembo, Herbo Sori, Bruxelles, Sikre, Sikre. Il paraît que Kounana paradis.
venez là d'écouter la chanson intitulée Sauf qui peut de Koffi Olomide et son groupe Quartier Latin. Et c'est par ici que nous clôturons la première partie du magazine Regard sur l'actualité de la semaine en RDC. Nous allons nous retrouver juste après l'édition du journal de...
Radio Okapi, Regard sur l'actualité de la semaine.
Nous voici dans la seconde partie du magazine radiophonique Regard sur l'actualité de la semaine. Je rappelle que chaque samedi à partir de 7h25, heure de Kinshasa, nous vous proposons de passer en revue les faits qui ont marqué l'actualité de la semaine en cours. Avec nos invités ici au studio, nous essayons de comprendre en quoi ces faits sont importants et quelles peuvent être leurs implications sur les vécus quotidiens de la population congolaise. Nous rappelons que dans la première partie de cette émission, chacun de nous a donné une nouvelle ayant captivé personnellement son attention le long de la semaine qui est en train de finir. Et ensemble, nous avons émis nos avis et suggestions sur la poursuite et la mise en œuvre de l'accord de paix de Washington signé entre la RDC et le Rwanda le 27 juin dernier. Et nous soulignons que cette semaine, les discussions ont tourné autour de l'intégration socio-économique dans les pays de la région. Alors, le premier thème de la seconde partie de ces rendez-vous concerne les remaniements du gouvernement qui a eu lieu dans la nuit du 8 août dernier. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a dévoilé hier la nouvelle composition du gouvernement, toujours conduit par la première ministre Judith Suminwa. Ce second gouvernement, baptisé Suminwa II, marque une nouvelle étape dans la conduite de l'exécutif congolais. Si plusieurs ministres conservent leurs fonctions, le chef de l'État a procédé à des ajustements intégrant des nouvelles figures dans l'équipe. La nouvelle configuration comprend 6 vice-premiers ministres, 12 ministres d'État, 24 ministres et 5 ministres délégués, puis 6 vice-premiers ministres. Comment commentez-vous cette actualité avec laquelle l'on s'est réveillé au cours du tournage de ces magazines? Nous allons commencer par vous, Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste à la rédaction de Biwan Télévision.
Merci beaucoup d'abord. Félicitations à ceux-là qui ont été...
Nominés.
Par rapport à ce gouvernement, il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer par les résultats. Avant qu'on puisse changer, nommer d'autres personnes et faire entrer d'autres personnes, les résultats de Soumina 1. Vous savez, le président de la République a 6 engagements. L'emploi, le chef d'État a promis aux Congolais, il va créer 6 400 000 emplois, qu'on n'oublie pas, et chaque année 1 500 000 emplois. Le pouvoir d'achat, maintenir le pouvoir d'achat des Congolais.
Améliorer le pouvoir d'achat des Congolais.
La sécurité, combattre les Kulunas et mettre fin
à la paix à l'est de la RDC.
Accès aux services sociaux des bases, couverture santé universelle.
À l'investiture de son premier mandat, il avait souligné que si ça ne marche pas, il va installer son QG au Nord Kivu.
Oui. La diversification de l'économie, l'efficacité de l'administration. Vous savez, je prends l'aspect emploi. Il ne faudrait pas qu'on puisse avoir un gouvernement où on assiste à un jet des dames, où jetons des présences, conseil d'administration, jetons des présences, les gens viennent prendre de l'argent et partir. Non. Ça donne l'impression qu'il faut gratifier des gens, c'est notre tour, nous devons aussi bouffer, nous retrouver. Non.
Et entre-temps, la situation ne s'améliore pas,
Il y a un chômage de masse. Il y a un chômage de masse dans notre pays. 80%. 80%. Il ne faudrait pas qu'on puisse créer de l'emploi pour des politiciens et la population ne crée pas. Il faudra aussi que le chef de l'État arrête avec les cumuls de fonctions. Un même monsieur qui est député national, qui a cédé le suppléant, c'est à sa femme. Il est sénateur, c'est son cousin. Il est député provincial, c'est son fils.
Il a
créé ce qu'on appelle l'entreprise familiale. Il a un patrimoine familial. Non, nous sommes dans un pays de chômage de masse. Pensez aussi à donner à ceux-là pour que... vous savez, le matin, même mon fils me dit, « Ah, papa, c'est la même personne, non, le nom qu'on entend chaque jour ici. » Oh, ben, félicitations, tu suis quand même la politique pour comprendre les choses. Parce que c'est la politique qui dirige le monde, c'est la politique qui nous dirige. Le pouvoir d'achat des Congolais. Aujourd'hui, le gouvernement souminois hein, fait quoi par rapport au pouvoir d'achat des Congolais? Le dollar américain, le roi dollar continue toujours à dominer le franc congolais sur le marché. Vous savez, à l'époque de Laurent Désiré Kabila, il y a eu deux Congolais, deux nationalistes, Ekwalanga et M. Dieudonné Tshitenge, qui ont aidé, peut-être beaucoup de gens ne savent pas.
Oui, mais voilà pourquoi on a remanié les gouvernements pour redynamiser les fonctionnements.
Attendez, il y a eu deux Congolais qui ont aidé Laurent Désiré Kabila à baisser les prix de biens et à donner de la valeur aux francs congolais. L'un est décédé, Ekwalanga, et l'autre, Dieudonné Tshitenge, est encore en vie. Il y a des Congolais qui maîtrisent bien les questions économiques et sociales pour aider les Congolais. La sécurité dans la partie du pays, les Kulula continuent toujours. Tout ça, c'est pour arriver à quel est le résultat. Parce que, vous savez, quand, des fois, nos qualités importent un peu. Je suis tout d'abord citoyen. Je suis d'abord citoyen. La sécurité dans la partie du pays et la sécurité face au...
Même Kulula. À Kinshasa.
Je prends dans la partie, par rapport à cette question, la sécurité par rapport à la justice. Vous savez, quand j'analyse le procès Constant Mutamba, vous savez que l'argent, on dit l'argent détourné de 19 millions, ça appartient à l'État congolais. Dans ce procès, l'État congolais n'est même pas là présent. L'État congolais n'est pas parti au procès. L'État congolais n'est même pas là pour postuler aux dommages et intérêts. L'État congolais n'est pas constitué partie civile. Donc pour l'État congolais, il n'y a pas de préjudice. Comment comprendre un procès où c'est lui le propriétaire de l'argent n'est même pas là? C'est quel type de procès? Mbongo na yo bayibi, mais yo mokoza na procédé. Je ne prends pas cette cause de Mutamba. Absurde. Mais à la limière, à la lecture de ces procès, on s'est dit, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. Donc, je continue. Par rapport au service de soins de base, il faut qu'on puisse aider, mettre en place des bonnes politiques publiques. Aujourd'hui, demain, c'est la rentrée scolaire. Nos enfants iront combien? J'ai déjà visité un très bon sac, $30, 25, $30, $40. Quel est le pouvoir d'achat d'un Congolais, d'un militaire, d'un policier
qui a 4 et 5 enfants?
Aujourd'hui, bravo au général qui est au niveau des services nationaux. Donnez tout d'abord aux écoles, pas aux universités.
Oui, mais les 6 axes du chef de l'État reposent sur ces aspects des choses.
Non, aujourd'hui, Souminois 1, Madame Souminois 1, gouvernement Souminois 1, quel est le résultat? Maintenant, quand on est 2, quel sera aussi les résultats? C'est-à-dire que moi, en tant que citoyen...
Chacun de nous peut se faire une opinion.
C'est-à-dire que nous attendons les... Peu importe! Vous savez, le président, c'est lui les maestros. Oui. Peu importe les gens qu'il va nommer, c'est lui les maestros. Mais nous, moi, en tant que citoyen, quel est le résultat? Aujourd'hui, si je remets à ma femme l'argent, c'est elle est incapable de faire ce qu'on appelle
la majorité en conclusion, chers collègues, dira résultat négatif.
Non, j'ai dit, moi c'est les résultats que je veux. Peu importe qu'on nomme, peu importe que le nouveau entre, peu importe qu'il y ait chez les dames qu'on constate que les uns vont ailleurs, les autres prennent telle position, mais moi, le résultat que j'attends, vous savez, j'attends les résultats aujourd'hui. Donc, pour moi, on doit mettre des bonnes politiques publiques en place. Nous sommes un pays sinistré. Un pays sinistré, on n'a pas besoin des gens qui dorment. On a besoin des gens qui travaillent. On a besoin de politiques publiques. Allez-y, comprenez ce qui se passe chez nos amis qui travaillent chez les Indo-Pakistanais. Mon frère, ils sont payés au lance-pierre. Les Congolais qui sont travaillés chez les Indiens, chez les Libanais.
Ils étaient d'ailleurs en grève il n'y a pas longtemps.
Oui, combien de ministres de travail avons-nous eu? L'inspection du travail est là. Vous savez qu'aujourd'hui, dans les entreprises publiques, se pose un problème de l'application de SMIC.
Du SMIC, oui.
Mais pourquoi les gouvernements ne savent pas ce que c'est pas? Les entreprises publiques. Parlons des entreprises publiques. Après les gouvernements, viendra les entreprises publiques, les établissements publics. Allons encore envoyer des gens qui viennent empocher l'argent et détruire ces entreprises publiques.
Des
permutations. Non, ça dit que le problème, il faut que le chef de l'État se réveille. C'est son mandat. Il faut que le chef de l'État se réveille davantage et nommer des bonnes personnes qui vont transformer le Congo et les Congolais. Il y a un autre problème sur le changement des mentalités. Comment on n'arrive pas à changer les mentalités des Congolais? Comment on n'arrive pas à changer ma tête? Donc pour moi, c'est le résultat qui importe. C'est le résultat que je cherche à voir.
Et sur les questions, les questionnements que vous vous êtes posés, je pense que chaque auditeur peut se faire une opinion. Merci beaucoup.
Et à comprendre aussi que la politique les politiciens sont là pour répondre aux intérêts, aux desiderata de la population, et non pas par rapport à leurs besoins. C'est servi, non, servi, oui, dit-on à l'époque de Marshall.
Oui, mais c'est plutôt le contraire qui est observé.
Vous savez, je vais aller loin. Je termine avec ce.
Allez-y.
Oui, je termine avec.
En deux minutes, oui, s'il vous plaît.
Avec cette phrase de Confucius, le philosophe chinois. Sous un mauvais gouvernement, la richesse est une honte. Sous un bon gouvernement, la pauvreté est aussi une honte.
Merci beaucoup, cher collègue Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste à la rédaction de Biwane Télévision. Je me tourne vers vous, professeur Dadi Salé. Comment commentez-vous cette nouvelle relative à la publication du gouvernement Tsumi Nwadé?
Je vais essayer de prendre certains angles qu'il n'a pas pu prendre. Je suis d'accord avec lui à 100%. Parce que les constats sur les rouges sont là. Le président lui-même l'a dit, presque toutes les entreprises du portefeuille, parce que c'est ce qui résume ce qu'il vient de dire. Mmh. Si toutes les entreprises du portefeuille, bien plus de 90% sont en faillite chaotique, donc ça ne va pas. Mmh. Si la justice est malade, comme le président l'a dit, donc ça ne va pas. Mmh. Donc le président est d'accord avec nous que ça ne va pas. Mais curieusement, il vient de remettre les mêmes personnes en majorité. Parce qu'en grande partie, il n'y a pas eu ce que le peuple semblait attendre. Ce que moi...
Parce que le peuple est resté sur le qui-vive pendant toute cette période. Oui.
Franchement, un changement radical. Ça va vers un gouvernement des révolutions et les anciennes têtes devaient à plus de 90% tomber.
Mais il y a eu les retours d'un expérimenté tel que M. Adolphe Muzito.
Je ne sais pas ce que vous appelez expérimenté, ça va. Mais moi, je constate qu'à plus de 80%, ce sont les mêmes têtes qui sont rentrées. Et nous félicitons effectivement le retour de cette opposition de son Excellence Adolphe Muzito, n'est-ce pas ? Et des Floribert Anzulouni, qui est quand même une entrée de quelqu'un qui a pu s'éteindre dans des mouvements citoyens. Il n'a jamais été au gouvernement dans ces cadres-là. Mm. Ça, nous félicitons, c'est sûr et certain. Mais les gros restent pratiquement le même, vous comprenez ? Or, si les gros restent le même et à des postes les plus importants, c'est-à-dire on ne s'attend pas à une révolution. Il y a eu des tournures où certaines personnes ont permuté. Ça va. Mais ça reste la même maison.
Oui.
Non, nous avons demandé au chef de l'État,
parce qu'on peut se poser une question. Bon, ils ont été permutés parce qu'ils ont produit quel résultat, comme l'a dit cher collègue Pascal Kambala.
Donc, mon avis est clair, ça va. Nous avons un nouveau gouvernement qui est pratiquement comme l'ancien, avec quand même peut-être 5% où il y a quelques changements. Parce que vous comprenez très bien que parfois on a les enfants d'eux qui sont rentrés là-dedans. Donc ça reste la même chose. Mmh. Comme on a toujours fustigé cela. Donc je suis désolé de dire que sauf des instructions un peu trop formelles, parce que c'est toujours possible, ne vous en faites pas. La question, ce n'est pas si nous ne sommes pas entrés. Non, c'est pas ça la question. Ça va. La question, c'est est-ce que le président de la République va changer sa vision avec ces mêmes personnes? La vision, c'est quoi?
Et est-ce qu'ils vont intérioriser la vision du chef?
Écoutez, c'est quelle vision d'abord? Parce que pour intérioriser une vision, il faut que la vision aussi soit aussi claire que tout. Et que cette vision-là va nous ramener maintenant vers un projet.
Le projet qui aboutira à des résultats.
Du gouvernement pour des résultats. Mmh. Ici, par exemple, nous avions suggéré, et nous continuons à suggérer, parce que les objectifs pour ces gouvernements ne sont pas encore sortis. Donc, il peut garder ces mêmes personnes et peut-être changer les objectifs. Peut-être que ça pourra marcher, mais théoriquement, non, ce n'est pas possible. Donc, sur le plan théorique, nous tournons en rond. Ça va vers un cercle vicieux, effectivement, de la médiocrité, vers un cercle vicieux, ça va de l'insécurité, parce qu'on ne sait pas si c'est avec la même personne qu'on va faire mieux. Au fond, si les chefs de l'État arrivaient, par exemple, à se dire, OK, je mets n'importe quelle tête, je garde la même personne, mais cette fois-ci, voilà, les instructions sont claires, nous avons un budget que j'ai demandé depuis très longtemps. Un budget de guerre, une loi financière de guerre. Parce qu'une loi financière de guerre changerait déjà tout. Donc, c'est le chef de l'État le premier problème. Je ne sais pas si vous me suivez. Excusez-moi ma petite bouche, parfois elle est comme elle est. Le vrai problème d'abord, c'est le chef de l'État. Si le chef de l'État ne change pas, pourquoi vous voulez que les choses changent? Pourquoi il espère que les choses vont changer? Ce n'est pas possible. C'est le chef de l'État qui doit changer sa façon de concevoir les Congos. Nous sommes en guerre, nous ne sommes pas dans une situation normale. Je viens de dire qu'il y a des morts, mais jusqu'à preuve du contraire, on ne sent pas qu'on a un gouvernement. Oui, 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 il y a les slogans, Téléma, etc. Ça va, je ne vais pas donner les éléments de preuve ici, vous les savez tous. Ça, on n'a jamais déclaré la guerre au Rwanda. Je pense que tout le monde le sait. C'est l'article 86 de la Constitution, qui apparemment c'est un article qui ne sert à rien. Ah oui, on ne sait pas qu'on a des articles pour déclarer la guerre. Depuis qu'on avait dit qu'on déclare la guerre. Déclarer la guerre, ce n'est pas un fait anodin.
Oui, mais nous sommes déjà au stade des négociations.
Non, malheureusement.
L'accord de Washington nous pousse à aboutir à la paix. Que
la déclaration de la guerre, j'ai dit même aux Nations Unies, à tout le monde, pourquoi il y a des confusions très simples. La déclaration de la guerre, c'est un fait normal. Et maintenant, négocier pour la paix, déclarer la guerre ne veut pas dire qu'on se bat. C'est parfois d'ailleurs la déclaration de la guerre qui fait effectivement la paix. Comment la déclaration de la guerre fait la paix? C'est-à-dire qu'on comprend, oh, ces gens-là se prennent au sérieux, ils sont prêts à défendre leur nation, ce n'est pas attaquer le Rwanda. Donc je pense effectivement que ces gouvernements semblent, on attend d'abord les grandes lignes du chef de l'État, c'est ce qu'on attend, c'est-à-dire la philosophie de Souminois 2, peut-être que le chef de l'État va nous écouter et qu'on peut être content qu'il y aura les Ouzalendou, là-bas, là-dedans. Nous avons dit effectivement que pour les Ouzalendou, les patriotes qui se battent, pas qui vont commencer à se battre, qui se battent, tant qu'on a cette structure où les Ouzalendou n'ont pas les moyens sur le terrain, ça va? Où effectivement la procédure de la rade est torpillée par le même gouvernement, parce qu'il n'y a pas de moyens. Ça va, on préfère construire effectivement de c'est quoi encore des histoires qu'on construit matin, midi, soir, des salles,
des immeubles,
etc. Et non, il y a un problème de priorisation, un problème de management, il y a un problème de volonté politique. Le peuple congolais, l'élite ne se prend pas au sérieux. Donc, pour ce gouvernement, nous souhaitons, ça va, toutes les bonnes choses et nous félicitons tout le monde. Mais on ne mérite quand même qu'on considère aussi ce qu'on dit.
Merci beaucoup, professeur Dadi Salé. Nous rappelons que vous êtes spécialiste en développement et analyste politique. Alors, le dernier thème de ces rendez-vous concerne les débuts de la publication des épreuves de la grande session de l'examen d'État, édition 2025, qui a débuté, qui a commencé le dimanche 3 août dernier avec une première vague concernant trois provinces éducationnelles, notamment les Kasaï Oriental 1, les Haut-Katanga 1 et les districts de Moamba, ici à Kinshasa. Les taux de réussite global enregistrés pour cette première vague s'élèvent à 72%, salués comme un signe d'engagement des élèves, des enseignants et des innovations dans la correction de ces épreuves. La correction, ils ont recouru à un logiciel de l'intelligence artificielle qui a permis d'économiser vraiment le temps, de gagner beaucoup de temps, selon le ministère des tutelles. Comment commentez-vous cette nouvelle? Nous allons commencer par vous, chers collègues, Pascal Kamba. Là, nous soulignons que vous êtes journaliste de la rédaction de Biwan Télévision.
Oui, comme pour les membres du gouvernement, je félicite aussi le lauréat, ceux qui ont obtenu leur diplôme d'État. Mais il est question du capital humain, la formation intégrale de l'homme. Comment forme-t-on nos enfants, mes frères et sœurs? Comment on forme les Congolais? Un diplômé d'État congolais, comment est-il formé? C'est là la base. Peu importe. Vous savez, moi je suis au niveau de fondamentaux. Comment nous étudions? Comment nos élèves étudient? Vous allez à l'UPN, vous allez trouver des écoles, il n'y a même pas de banc. C'est ici que je lance l'appel. J'ai écrit au général de service national.
Kabuika Kasongo.
Pour qu'ils puissent donner des bancs à l'école Saint-Édouard, qui est à l'UPN, où j'avais amené 300 bancs. Il n'y a pas de bancs. En tant que parent, dans le comité des parents, j'ai écrit personnellement, et je sais qu'il va attendre notre cri de détresse. Comment on forme nos élèves? Comment on forme? Quel est le niveau de corps enseignant? Dans quelles conditions? J'ai suivi dans le passé, les chefs de l'État parlaient, on va préparer cantine scolaire. Où en sommes-nous avec ça? Le problème dans notre pays, nous n'investissons pas assez sur les investissements immatériels, c'est sur les capitaux humains. Il n'y a pas assez d'argent. Il n'y a pas assez d'argent, on ne met pas beaucoup d'argent. Dans un pays où vous entendez que des millions. J'ai dit l'autre fois, j'ai proposé, parce qu'il faut aller en termes de propositions. Pourquoi ne pas sur la TVA, parce que la TVA, c'est la première ressource fiscale dans un pays. Pourquoi ne pas sur le 16% de la TVA, on prend 10% à verser directement pour l'enseignement primaire, l'éducation nationale? Pourquoi ne pas faire ça?
L'enseignement des bases.
L'enseignement des bases. Pourquoi? Il faut investir dans l'éducation. Il faut investir. Les autres pays investissent dans l'éducation.
Oui, mais nous, chers collègues, on a publié les résultats au bout de 48 heures et cette publication est diversement interprétée auprès de la population. Vous, personnellement, comment analysez-vous cette nouvelle?
Nous sommes entre la tradition et la modernité. Nous voulons aller où?
Mais nous devons avancer.
Avancer, donc c'est là vers la modernité.
Exactement.
Et aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle.
Tout à fait.
Et nous devons aller vers ces intelligences artificielles, qui d'ailleurs fait partie de ce qu'on appelle la formation du capital humain. Mm. Le capital humain doit maîtriser cette intelligence artificielle. Mais aujourd'hui, nous, tout ce qui a... Vous savez, il y a des gens qui ne sont pas passés par, tu vois, nos téléphones traditionnels, là, directement, il a l'Android. Il ne va pas comprendre d'où nous venons. C'est-à-dire qu'il faudra que nous soyons sur le chemin de ce progrès social et progrès technique. Or, chez nous, nous négligeons les capitales humains. Qui est au gouvernement? Qui est député national? Qui est sénateur? A-t-il été bien formé? Est-ce qu'il comprend ce qu'on appelle la chose publique, l'intérêt général? Aujourd'hui, les gens qui ont été nommés au gouvernement, peut-être sont des faits dans des tribus. Ah, Bissot, Wakwetu, Wetu. Comment on dit à Kikongo? Peut-être c'est ce qui va se passer aujourd'hui. C'est ce qui se passe. C'est-à-dire qu'on a un vrai problème au niveau de la formation du capital humain. Peu importe les logiciels appliqués pour avoir les résultats. D'ailleurs, c'est à féliciter parce que nous allons vers la modernité. Mmh. Mais le problème, à la base, c'est la formation du capital humain. Il faut investir dans le capital humain. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous investissons? Si vous donnez à un Congolais 100 000 $, 200 000 dollars, peut-être quelqu'un va passer et se taper une belle voiture. Mais l'investissement humain, aujourd'hui... J'ai un ami burkinabé qui me dit, comment chez vous, vous achetez des jeeps de 60 à 80 000 aux députés?
Mais nous avons des routes cabossées.
Comment vous faites ça chez vous? Comment vous pouvez payer, vous donner une jeep de 80 000 dollars, 50 à 60 à 80 à un député national?
Et ils sont au nombre de 560.
Vous savez combien ça représente au Burkina? Vous savez, nous, nos voisins, nos frères et sœurs africains, ils observent comment nous vivons ici au Congo. Ils trouvent, non, nous exagérons. Nous exagérons dans notre façon de vivre. Il faut voir les frais, comment le budget. Des fois, quand vous lisez les rapports de l'Observatoire de la dépense publique, la grande partie de notre budget, la grande partie, va où? Frais de fonctionnement, frais de voyage. Mais quand on envoie, vous savez... Quelqu'un, un officiel tombe malade, il va se faire soigner à l'étranger. Mais alors que nous avons nos hôpitaux qui sont ici, on vous parle de Mama Yemo, on vous parle... Ça dit qu'il y a un vrai problème au niveau de la formation du capital humain. Qui est là comme autorité pour aider les Congolais, les Congos à aller de l'avant? Est-il lui-même, il a l'amour du Congo? Est-ce qu'il a l'amour du Congolais? Est-ce que je suis PDG dans une entreprise? Quand je ne paye pas les travailleurs, est-ce que je ne sais pas que je suis en train de détruire les enfants qui doivent aller à l'école? Quand je paye mal le Congolais, et savez-vous pas que ces enfants, les enfants de ces Congolais-là, ils seront pas bien formés demain? Est-ce que quand je fais mal les choses, vous ne savez pas que vous détruisez la jeunesse aujourd'hui? Aujourd'hui, chaque matin.
Qui est l'avenir de demain.
De demain.
Merci donc, beaucoup, cher collègue Pascal Kambala. Nous rappelons que vous êtes journaliste à la rédaction des Buan Télévision. Vous plaidez pour l'investissement du capital humain. Tout en encourageant les candidats finalistes qui ont reçu leur diplôme. Oui. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous. Professeur Dalid Saleh, vous êtes expert en développement et analyste politique. Comment commentez-vous cette nouvelle relative à la publication de la grande session de l'examen d'État, des épreuves de l'examen d'État, édition 2025.
On devait d'abord féliciter les lauréats, les heureux, et on précise aussi qu'il y a aussi, il y a eu aussi la publication directement au niveau de la 8e, où il a réussi aussi, donc ça je ne peux pas oublier.
On vous félicite également, parents.
De fait, il y a eu à boire et à manger, et que la technologie est intervenue, je pense que ça c'est trop technique. C'est tellement technique qu'on veut la vérité. Ça, c'est sûr et certain. On veut savoir effectivement ce qui s'est passé. Mais cela étant, nous pensons exactement que l'éducation, comme mon co-débatteur l'a si bien dit, la technologie, c'est bien, mais est-ce que nous pouvons déjà commencer à changer les programmes?
parce que jusqu'à preuve du contraire, c'est le plus grand travail par rapport à l'éducation.
C'est le plus grand chantier.
Des enfants qui est extraverti.
Les programmes, les conditions des vies d'enseignants également. Voilà.
Non, je vais aller tout droit au but. S'il faut qu'on étudie encore sous l'arbre à palabre, sous l'arbre, ça va. C'est pas ça le premier grand problème. Parfois les gens, je sais que je serai trop critiqué avec ces points-là. Non, s'il faut qu'on étudie sous l'arbre, mais qu'on a la bonne éducation, la bonne matière, parce que l'éducation c'est d'abord la matière.
Les contenus.
Les conditions viennent après. Les contenus. Depuis qu'on les dit. Ça va? Je suis un panafricaniste, je suis un patriote, les contenus ne changent pas. On continue à apprendre l'histoire, effectivement, des Américains, et effectivement, des rois belges, et jusqu'aujourd'hui, là où je vous parle. Donc, je pense qu'effectivement, il faudra que, quand je parle de la révolution culturelle...
Donc, les réformes doivent se baser sur les contenus, la matière à enseigner, clair. Au lieu d'échanger de concepts 7e, 8e...
Vous ne pouvez... Ça n'a rien à voir. 7e, ça vient faire quoi? 8e, ça vient faire quoi? C'est la même matière qui est restée.
LMD.
C'est la même matière. On en a parlé encore un de mes maîtres hier. C'est la même matière que vous avez d'ailleurs interviewée il n'y a pas longtemps.
C'était hier.
Exactement, c'était hier, j'ai bien suivi. Mais la même matière reste. Parce qu'effectivement, quelqu'un dit qu'il n'y a pas de moyens. Mais il y a des moyens pour faire quoi? Le ministère existe pour faire quoi? Quand nous parlons de la révolution politique, je sais que beaucoup de gens ne nous comprennent pas. Il continue à applaudir les 10 à 15, 20%. Je suis d'accord qu'il y a quelque chose qui se fait. Mais en tant qu'enseignant, on ne peut pas applaudir un enfant ou bien quelqu'un qui a 20%. Non. 20%, c'est-à-dire quand même, il a changé la technologie, vous comprenez? Il y a la technologie qui s'est améliorée, on a ajouté l'intelligence artificielle pour corriger. Oui, c'est la technique. Mais la vraie matière n'a pas changé.
Non.
Donc l'éducation de nos enfants n'a pas changé. Vous voyez le fond? Donc, et je me pose des questions, pourquoi est-ce qu'on applaudit quelqu'un qui a 20%? Est-ce que vous voyez qu'on a applaudi les gens qui ont eu 40% ici?
Non.
On les a pas applaudis. Alors, quand vous avez le membre du gouvernement, vous avez l'élite qui a moins de 30% et vous les applaudissez, est-ce que vous ne comprenez pas qu'effectivement que nous ne misons pas vers ce qu'on appelle la qualité? Nous ne misons pas vers l'excellence. C'est un peu comme si le Congo s'est satisfait et chante parce que effectivement j'ai eu à manger le pain le matin. Et je suis content. Donc, c'est ça mon vrai problème. Je pense effectivement que tout en acceptant et en félicitant, comme je l'ai dit, le numérique, l'intelligence, il faut le faire, il n'y a rien à voir. Je n'ai pas de critique là-dessus, je ne suis pas technicien, je n'ai pas fait des enquêtes, n'est-ce pas? Pour savoir si il y a des résultats vrais, il y a des résultats faux, il y a trop de choses à dire là-dedans. Je demande aux techniciens de faire leur travail. Et parmi les premiers grands techniciens, c'est le secrétariat général, ça va, de l'EPSP. Le secrétariat général ne doit pas accepter n'importe quoi. Le secrétariat général, qui est un outil administratif, est très important, qui n'est pas politique, qui ne devait pas être politique, ne peut pas accepter s'il y a eu des « ça ne va pas », des cachets, c'est là. Donc, j'espère effectivement qu'il n'y a pas eu de couac sur la proclamation.
Ou la manipulation dans le traitement des données.
Résultats. J'espère. Je n'ai pas de preuves, donc je ne vais pas dans la spéculation, mais j'espère que le secrétariat général fait très bien son travail. Mais moi, je vais vers le fond de l'éducation des Congolais, où on doit apprendre la valeur de nos villages, où on doit mettre effectivement les coutumiers au centre de l'éducation déjà sociale, au centre de l'éducation civique et éthique, parce que ça part de là. Donc, j'espère effectivement que cette fois-ci, la ministre qui a eu encore la confiance du chef de l'État va réorienter totalement, ça va, la ligne pour le ministère de l'Éducation.
Merci beaucoup à vous tous, à vous deux, d'avoir analysé ces sujets si rapportants au début de la publication des épreuves de la grande session de l'examen d'État édition 2025 qui coïncide avec l'insertion de la correction par les logiciels de l'intelligence artificielle diversement commentée cette semaine sur les réseaux sociaux. Donc nous allons souffler un peu avec la musique, avec la chanson « Moi Natanga » de Werason.
La gratuité de l'enseignement primaire est allée pour la moto nyusu. Tangi sa mwana na yo, polobi ya koma moto. Profite na tango oyo, o tangi sa mwana fele.
capable à péter. Pour ne pas payer les frais scolaires, je ne peux pas gérer une société sans pourtant avoir un bagage intellectuel.
Non, pas à ton âge. Mariage précoce, pardonnons. Fils et garçons tous à l'école. Oh là là, où est rançon? Même si je suis une fille, je dois aller à l'école pour assurer mon avenir. Oh là là, mes parents. Je vous prie, mes chers parents, de prendre à main nos responsabilités pour que j'aille à l'école. Oh là là, mes parents. L'éducation est le socle de tout développement. Comme il y a des gens qui ont été éduqués, ils ont été éduqués, ils ont été éduqués, ils ont été éduqués.
Les parents ont la responsabilité d'accompagner les enfants dans les processus de l'éducation gratuite.
Pardon papa, j'insiste, faites-moi femme instruite, est-il à la famille, à la nation et à l'univers.
Des enfants, car c'est ce qui assure l'histoire familiale, même après les parents. Tanga mwana, tanga mwana. Ouerason, tout est mal. D'aller à l'école, car demain ça sera trop tard. Scolariser les enfants, c'est investir pour la nation. Tanga mwana.
Nous venons de suivre la chanson Mwana Tanga de Ouerason et je profite de l'occasion également pour remercier mes deux invités avec qui nous avons analysé les faits saillants de la semaine. Nos sincères remerciements à vous, professeur Dadi Salé. C'est vrai que c'est difficile de circuler à Kinshasa. Vous avez fait un effort d'arriver ici au studio. Nous rappelons que vous êtes expert en développement et analyste politique. Merci également à vous, Pascal Kambala. Vous êtes journaliste à la rédaction de la radio-télévision Biwan. Merci de vous avoir déplacé pour venir au studio à temps et malgré les aléas de la mobilité ici au niveau de la ville de Kinshasa. C'est par ici que nous clôturons les magazines Regard sur l'actualité de la semaine en RDC que j'ai eu l'immense plaisir de les présenter. Kéline Koutet s'est occupée de la coordination de ces numéros. Thérèse Kankou l'a supervisé et notre collègue Patrick Kiasongwa s'est occupé de la prise de son. Excellent week-end. Merci de rester branché au programme de la Radio Capi. Audio Hub. Et 8h, heure de Kinshasa.